Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Et il est 19h et presque une minute. Et le week-end dernier, c'était la fête de l'UMA, la première en ce qui me concerne et pas des moindres, puisque j'ai eu la chance d'être invité par les Invertis, ce fameux collectif de gauchistes transpédéguines qui ont égayé nos manifestations contre la réforme des retraites. Les Invertis qui organisent donc une table ronde sur un thème tout à fait vertigineux, je cite, LGBTI et journalisme, que peut la presse communautaire et indépendante contre la bolorisation? Bon, j'avoue que mon premier réflexe, ça a été de penser que ce milliardaire breton responsable du virage fasciste du journal du dimanche et d'Europe 1, patron de CNews et de C8, ne tremblait probablement pas devant notre petite émission bénévole diffusée chaque semaine sur une petite radio associative. Et ensuite, j'ai vu que parmi les invités, il y avait par exemple Xavier Hérault, un des fondateurs de YAG, qui va peut-être rappeler des souvenirs à quelques-uns de, et une de nos auditrices, ex-journaliste à Têtu, en fait quelqu'un qui travaille pour la presse communautaire depuis la fin du siècle dernier, ou encore Lénaïk Bredou, la géniale gender editor de Mediapart. Autant vous dire que j'avais un peu l'impression d'avoir été invité par erreur. Alors parmi les prises de parole de mes camarades, je retiens celle d'Apolline Bazin de l'incontournable média Manifesto 21. Elle disait que nos médias, indépendants, autofinancés, voire pas financés du tout en ce qui nous concerne, avaient besoin de soutien. D'un soutien pas uniquement financier, même si vu le travail que notre petite équipe bénévole fournit, je me dis que parfois ça ne serait pas du luxe, mais aussi de soutien moral, qu'on nous dise que ce qu'on fait, c'est bien, ça vaut le coup, ça comble un manque, ça crée peut-être un espace nécessaire, ça ouvre des pistes de réflexion, peut-être même ça apporte un peu de joie. Ça m'a d'autant plus touché qu'il y a quelques mois, on m'a dit que le lobby était devenu une émission de cis gays. Alors je ne devrais pas trop donner d'importance à ce genre de critique assez peu fondée. Je vous laisse regarder la programmation de notre émission ou la composition de notre équipe ces 5 dernières années pour vous en convaincre si c'est nécessaire. Mais force est de constater que 4 mois après avoir reçu cette attaque un peu minable, cette arnaque, j'ai toujours du mal à la digérer. Alors si jamais vous nous écoutez en podcast ou en direct à la radio, une fois de temps en temps ou religieusement chaque semaine, eh bien, n'hésitez pas à nous dire que ce qu'on fait, c'est bien. Soutenons nos quelques médias communautaires, Manifesto 21, Friction Magazine, Strobomag. Ayons autant que faire se peut un regard bienveillant sur les initiatives queer, même si ça ne nous empêche pas d'avoir un regard critique, hein, de prendre du recul, de le dire quand ça va pas. Mais n'oublions pas aussi de le dire quand ça va. Bienvenue à tous.
Salut le lobby, ça va le lobby ?
Assez de société qui ne respecte pas les principes queer.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
Ouais, c'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée. En fait.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Les petits, les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitches.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais...
Je raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de est-ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et on est parti pour une heure avec une chouette équipe autour de la table. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Adorable. Alors parmi nous, fidèles, parmi les fidèles, il y a Chat. Salut Chat.
Salut Colin.
Comment ça va?
Ça va.
On se parle sur le même micro comme ça, on est adorable, non?
C'est très intime.
Ah waouh. Et ce n'est que le début de cette émission. Parmi nous également, Zoé. Salut Zoé.
Coucou.
Comment ça va?
Ça va super.
Pour ce chouette retour parmi nous, on est très heureux de t'avoir. Également avec nous, Lucie, ce soir.
Salut tout le monde.
Ça va?
Oui, très bien.
Ben voilà, on est heureux que tu sois là aussi. Et puis Maëlle est avec nous aussi ce soir.
Bonsoir.
Bienvenue, sois la bienvenue. Alors, quel sommaire pour notre lobby cette semaine? En seconde partie d'émission, on célèbre la journée de visibilité bi. C'est lundi prochain. Et à cette occasion, l'association Bicause et le collectif Bipan Paris organisent une série d'événements avec aussi d'autres collectifs à l'organisation. L'occasion pour nous de mettre un coup de projecteur sur ces assauts et sur la biphobie qui persiste notamment dans nos milieux queer. Rendez-vous aux alentours de 19h45. Et avant ça, de la chanson au programme du lobby cette semaine. Nos deux invités ont publié un livre il y a bientôt 5 ans, retraçant une histoire de la chanson lesbienne des 20e et 21e siècles. Désormais, le livre s'est décliné en spectacle, que dis-je, en cabaret. Le cabaret des dessous lesbiens, c'est son nom. C'est le 2 octobre prochain, aux 3 Baudets. Léa Logiter et Pauline Paris sont nos invités.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Bonsoir Léa Logiter et Pauline Paris.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Donc effectivement, il y a une date prévue le 2 octobre au 3 Baudets à Paris, mais avant ça, on vous retrouve ce dimanche chez Olympe à partir de 19h30 pour une soirée consacrée au drag king. Léa et Pauline, vous serez Butch Dog et Penguin. Qui sont ces personnages? Léa peut-être?
Bah, en fait, on s'est dit que nous aussi, on avait envie de se kinguer.
Et en fait, on a voulu passer, parce que dans le livre, on retrace les différentes stratégies pour dire sans dire l'homosexualité féminine. Et il y a notamment la métaphore animalière. Donc ça nous intéressait déjà d'aller vers un personnage, une créature animalière. Et ensuite, on s'est dit aussi qu'on allait reprendre cette stratégie de retourner l'injure pour en faire un symbole de fierté. Et donc, Butch, Dog, c'est évidemment une reprise du terme Butch. Et aussi, ça fait référence au bulldog qui était l'animal symbole des lesbiennes à la Belle Époque. Voilà, Colette, tout ça, Missy, tout le monde avait des bulldogs. Et c'est un petit jeu de mots. Et je te laisse Pauline dire pour Penguin.
Oui, elles se baladaient toutes, elles se promenaient dans la rue avec leur bulldog. Comme ça, elles pouvaient se reconnaître entre elles.
Pratique.
Ouais, pratique. Et moi, Penguin, c'est la Gwyn. Et Penguin, le pingouin, en fait, ça vient de la chanson de Juliette Gréco, Les Pingouins. Les pingouins et les pingouines. Et le grand public était passé à côté de ce message Gwyn, quand même, de ce message où la chanson retraçait comme ça la communauté, parlait de la communauté. Et je suis pingouine.
Et dans le cabaret, vous aviez d'autres personnages ou c'était. Parce que vous êtes aussi en King dans le cabaret des Dessous Lesbiens.
En fait, on a commencé, le premier qu'on a fait aux Trois Baudets, on a commencé en effet avec Lou et Paul, c'était nos noms. Et là, le deuxième qu'on fait, c'est donc Butch Dog et Penguin. Mais on ne sait pas encore si ce sera toujours ça ou si ça changera. On va voir.
En évolution.
On teste différents kings, je pense. Et puis ça pourrait être aussi un personnage plus appuyé de journaliste pédant ou de détective privé pour aller dans ce côté-là. On a plein d'idées, en fait. Ouais. On a fait une résidence d'écriture cet été, justement, pour essayer de pousser un peu plus loin nos personnages king. Et je pense qu'on va en essayer différents. Et puis aussi pour ne pas lasser les gens, que ce ne soit pas toujours les mêmes présentations.
On a aussi fait un atelier de maquillage de king. Parce qu'on partait de loin. Donc on démarre là-dedans.
Donc résultat à découvrir le 22 septembre chez Olympe.
Oui,
voilà. Très bien.
Et donc pourquoi cette édition spéciale King ?
Justement, en fait, au départ, on voulait vraiment mêler les chanteuses, chanteureuses qui reprennent la chanson, mais aussi développer d'autres médiums artistiques, des feuillages, de danse, etc. Et en fait, très rapidement, on a eu des propositions de King. Et comme ça plaît beaucoup aussi, on s'est dit qu'on allait faire une spéciale King. Et chez Olympe, qui met à l'honneur les drag queens et drag kings, c'est un bon endroit pour tester, en fait. On fait deux formats, en fait. On fait des formats un peu plus petits, dans des bars, etc., où là, en fait, on rencontre de nouveaux artistes, et des formats aux Trois Baudets, là, qui vont devenir réguliers, où c'est avec des artistes qu'on a interviewés dans le livre.
Et d'autres aussi qu'on découvre.
Voilà, mais notre troupe un peu plus régulière. Et l'idée, c'est un peu de faire les deux et de faire des thématiques spécifiques. C'est drag king, mais ça pourrait être une spéciale poésie aussi.
Cinéma aussi.
Ouais, voilà.
Et du coup, là, qui vont être vos invités le 22 septembre ?
Chez Olympe, ça va être, il va y avoir King Jacob, qui est souvent, et Monsieur Confiture, qui ont déjà plusieurs fois participé au cabaret, et de nouveau, qui sont Béton Mouillé et Sexy Truck.
Béton Mouillé, du coup, qui est un drag king fakir. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais...
Chad a l'air de tout à fait voir ce que c'est. Je crois que tu es ravie.
Je suis absolument fan de Béton Mouillé. Donc je t'aime.
Mais bon, du coup, vous voyez ce que c'est, Fakir qui joue avec son corps, des transpersions de la douleur. Et du coup, ça va être assez intéressant, c'est une nouveauté. Et là, on mélange vraiment. Et puis, Monsieur Confiture qui va, lui, chanter, mais numéro des feuillages, de Fakir et de chant, quoi.
Donc, ça promet d'être spectaculaire. C'est ce dimanche 22 septembre à partir de 19h30 chez Olympe. Léa Logiter et Pauline Paris sont donc avec nous ce soir dans le lobby pour parler du cabaret des Dessous Lesbiens. Et on continue à parler musique et lesbianisme avec Maïel. Maïel, on me dit que tu as un problème avec les playlists de tes copines hétéros.
Non, mais à un moment, faut arrêter. En fait, moi, j'en peux plus. Je vais à une soirée chez l'une d'elles le week-end dernier. Je lui fais l'honneur de ma présence. J'ai même du houmous et tout. Et quand j'arrive, j'entends quoi dans l'enceinte ? Donc c'est Good Luck Babe, hein, de bien Chapelle sûr. Rhône. Normal, personne n'est choqué de mettre cette chanson dans une soirée sympa. Donc je lui dis, en fait, ma belle, si j'avais eu envie de fixer le vide en écoutant une chanson qui décrit parfaitement mon era homophobie intériorisée, hétérosexualité compulsive, ben, je serais restée clairement chez moi dans mon lit. Et elle, elle me répond quoi ? Mais j'adore cette chanson, je la mets même pour faire mon sport et tout. Et je sais, vous allez me dire, bon, il y a la barrière de la langue. Mais non, en fait, dites-vous que sur TikTok, j'ai vu un couple hétéro danser sur cette chanson à leur mariage. Très étrange. Bon, après cet épisode de ma vie vraiment traumatisant, j'ai réfléchi à d'autres chansons. Hein, comme ça, vous savez, le genre que nous, on trouve méga triste et émouvante, alors que les hétéros, ils adorent danser dessus en boîte. Et c'est pas nouveau. Hein. Par exemple, je suis sûre que vous connaissez ce classique des années 80, Small Town Boy de Bronski Beats, où c'est une chanson qui parle d'un adolescent gay qui fugue pour échapper à l'homophobie de sa petite ville. Le clip aussi, il est très explicite sur le thème de la chanson. Sauf que, bah, y a des chances que vous ayez vu votre oncle Christian avec sa cravate autour de la tête en train de danser à fond là-dessus à son barbecue d'anniversaire.
Ah oui, effectivement, j'ai l'image. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Bon, une autre chanson qui me fait le même effet, alors qu'elle est beaucoup moins explicite, c'est la version solo de Freedom de George Michael, communément appelée Freedom 90. À l'époque, George Michael, il est encore dans le placard et il va faire son coming out presque une décennie plus tard, en 98. Et c'est ce coming out qui va mener les gens à réanalyser les paroles de Freedom, notamment ce passage. Donc je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir, je pense qu'il est temps que je te le dise, il y a quelque chose au fond de moi, il y a quelqu'un d'autre que je dois être. Donc le pauvre Georges, il n'est pas très bien hein, dans Freedom 90. Il parle de toutes les choses qu'il tourmentait à l'époque, que ce soit la fin de Wham ou bah, son identité qu'il devait cacher. Et franchement, la chanson, moi, elle me brise le cœur, hein, alors qu'à l'époque, c'est un énorme tube pop et les critiques, ils parlent plus du refrain catchy et de l'instru dansante que des paroles. Bon, en vrai, moi, je trouve ça intéressant, hein, c'est que même quand les chansons sont hyper explicites, on peut quand même se retrouver dans des espaces où leur signification, elle est un peu effacée. Mais bon, au final, peut-être que tant que c'est eux qui sont concernés par les paroles se sentent représentés, c'est le plus important. En tout cas, c'est un peu pour ça que Lil Nas X a dit avoir écrit sa chanson « Montero, Call Me By Your Name ». Donc c'est encore un exemple de paroles hyper tristes, hein, mais complètement zappées par une partie de la population. Mais pour lui, donner son propre prénom, donc Montero, à une chanson, c'était aussi une manière de se dire « Voilà, je suis out, j'en suis fière et c'est écrit pour toujours dans cette chanson ».
Merci beaucoup Maëlle pour cette petite rétrospective en musique de ces musiques un peu incomprises. J'imagine que ça vous inspire un petit peu parce que vous, dans Les Deux Lesbiennes de la chanson, ce livre qui est donc d'abord paru aux éditions X puis reparu cette année dans la collection Féministe de Point, Léa Logiter et Pauline Paris, vous parlez aussi un peu de chansons un peu incomprises ou au sous-texte que les hétéros n'ont pas forcément eu.
Oui, oui. Bah, par exemple, justement, on parlait des pingouins tout à l'heure, voilà. De Juliette Gréco. Le grand public a vraiment cru que c'était une chanson pour sur les animaux.
Trop mignon.
Voilà.
Très mignon.
Ou même Maman a tort, en fait. Des discussions avec des hétéros qui sont encore là, mais non, c'est juste une chanson sur une petite fille qui s'ennuie de sa mère à l'hôpital, du Mylène Farmer. Et bah voilà, en fait, c'est...
Alors que finalement, c'est quand même un peu explicite, quand même. L'infirmière pleure, je
moi,
l'aime.
Moi, j'ai toujours trouvé ça très explicite, mais en fait, c'est vrai qu'en parlant avec des potes hétéros, ils étaient là, mais bah non, pas forcément et tout. Et en vrai, bah, on a voulu faire vraiment... Enfin, on a creusé dans le livre et on a vu que Mylène Farmer, quand elle a sorti la chanson, bah, elle était encore toute jeune, mais... elle est passée à Champs-Élysées et elle a dit que c'était pas une chanson sexuelle.
Place pour exister, freaks, pédé, racisé, toujours le point. Front National.
Le groupe extrêmement lesbien Camion Bip Bip à l'instant dans le lobby de Radio Campus Paris. Mmh. 19h17 et nous sommes donc toujours en compagnie de Léa Logiter et Pauline Paris à l'occasion des prochains cabarets des Dessous Lesbiens, Zoé.
Oui, tout à fait. Et pour écrire le livre dont est extrait les chansons que vous mettez en scène dans le cabaret. Vous êtes longuement plongé dans des archives et j'aimerais justement parler de lieux parce que quand on parle de cabaret lesbien queer, se dessine toute une géographie de lieux qui ont existé et pour certains qui existent encore, comme par exemple le Champ Mêlé. Et je voulais vous demander pourquoi avoir choisi la salle des Trois Baudets, une salle qui est plutôt intimiste, donc vous venez de dire qu'il y avait à peu près 200 places et qui rappelle bien les ambiances de cabaret. Est-ce que c'était voulu?
Oui, on s'est dit qu'il y a toute une histoire, une histoire de la chanson aux Trois Baudets. C'est un vieux cabaret. Bah, d'ailleurs, les Trois Baudets, les Trois B, ça vient pour Barbara, Brel et Brassens. Mmh. Et donc, ça nous importait de nous retrouver dans un cabaret avec une histoire. Et d'apporter le message lesbien aussi dans un cabaret, les Trois Baudets, qui peut avoir été plus, j'ai envie de dire, un cabaret où on entend un peu de la chanson plus hétéro. Et là, de faire venir le message lesbien là, d'ouvrir.
Et c'est pratique dans une salle intimiste parce qu'on dit qu'on veut faire comme Suzy Solidor, donc dans son cabaret La Vue Parisienne, qui susurrait à l'oreille de ses auditrices, de ses spectatrices. Des poèmes érotiques. Et nous, on susurre les sous-entendus lesbiens à l'oreille. Donc, il faut quand même que ce soit une salle un peu intimiste. Sinon, on perd ce côté.
Et comment vous avez construit ce spectacle? Est-ce que c'est juste vous deux ou de qui vous êtes entourés?
Ça a démarré au Cénobar. Donc, c'est un bar à un petit cabaret à Ménilmontant. Et l'atelier voulait que nous a proposé donc d'en faire un cabaret, quoi. Et on a fait les quatre premières éditions là-bas en proposant à des artistes du Cénobar en général. Et donc, au départ, c'était surtout des chanteuses. Et petit à petit, il y a eu des drag queens qui sont rajoutées. Et voilà.
Ce qui était important pour nous, en fait, c'était de proposer la liste aux artistes et vraiment qu'elles choisissent la chanson qui les inspire, en fait. Et du coup, on n'impose pas du tout les chansons. Et nous, on écrit un petit texte de présentation pour faire ressortir les sous-entendus, mais les artistes ne savent pas ce qu'on va dire. Et nous, on ne sait pas comment elles vont réinterpréter la chanson. Si ça va être en version rock vénère ou si ça va être un effeuillage. Et du coup, on a la surprise un peu sur scène. Donc en fait, c'est pas un spectacle qui est écrit du début à la fin. Nous, on écrit nos intros, évidemment, on répète notre duo pour que ce soit le plus compréhensible possible. Mais après, ce qui nous plaît un peu, c'est d'avoir notre vision sur la chanson et la vision d'une artiste aussi dessus. Et ça n'est peut-être pas la même, en fait.
Mmh. Du coup, chacune se découvre un peu sur scène.
Exactement.
Ouais.
Même les artistes qui ont chanté donc leurs propres chansons, par exemple Carmen Maria Vega qui a chanté J'ai tout aimé de toi, elle a découvert l'intro qu'on avait fait sur sa chanson sur scène, quoi, avant de monter.
Et d'ailleurs, les artistes du livre, on leur demande aussi de reprendre une chanson du livre qui n'est pas d'eux. Donc il y a aussi ce truc.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, aux reprises, je voulais vous demander, parce que donc en fait, on entend beaucoup de chansons qui sont parfois assez anciennes, dont les interprètes originales sont décédées parfois. Vous les faites chanter à des nouvelles interprètes. Par exemple, c'est le cas avec l'artiste Faune, qui avait fait une reprise pour la dernière édition de Maman a tort, de Mylène Farmer, ou encore Rupture au miroir de Jane Birkin. Comment vous jouez entre ces chansons du passé et ces nouvelles interprétations ?
Ben, on laisse vraiment les artistes choisir la chanson qui les touche. Donc, on leur fait pas chanter. C'est oui. Vraiment eux qui choisissent celle qui... j'ai oublié la question.
Et qui font leurs arrangements en fait. Donc évidemment ça remodernise. Mm-hmm. En général, ça peut aller tout à fait dans un autre endroit quoi. C'est le cas avec Faune en fait, qui en fait va faire de la trompette sur du Barbara ou voilà, donc c'est assez original quoi.
Et c'est important pour vous de faire vivre sur scène cet héritage lesbien au-delà du livre que vous avez publié, mais vraiment que ce soit, que ça s'inscrive dans une salle, sur scène, que ce soit vraiment du spectacle vivant.
On s'est dit que, en fait, une fois qu'on a écrit le livre, on s'est dit, on peut voir la playlist dans le livre, on peut cliquer sur le flashcode et écouter. On s'est dit quand même, on parle de chansons et tout ça, ce serait vraiment génial. Il y a des chansons qui ont complètement disparu et tout ça, et ce serait génial de les réentendre, quoi. Qu'elles ressortent, des femmes comme Anaïs Capri ou Damia, ou qu'on a oublié Sidonie Baba. Enfin, il y a plein de gens.
Faut nous dire un peu qui c'est, du coup.
Quoi ?
Faut nous dire un peu qui sont tous ces gens, alors.
Ah oui, comment dire, Sidonie Baba, c'est les années 40. Elle avait son cabaret qu'elle avait ouvert elle-même et sa chanson, Le bal des trois chandelles. Elle l'a tenue juste avant la guerre. Elle l'a ouvert en 38, je crois, en 39, 40. Enfin, elle l'a tenue pendant la guerre. Et après, elle a dû partir. La libération. On lui a reproché d'avoir eu son cabaret ouvert et tout ça. Et c'est des personnes parfois qui ont une très courte carrière, qui sortent une chanson et qui disparaissent. Et donc là, quand on a des artistes d'aujourd'hui qui reprennent ces chansons, c'est juste beau, quoi.
C'est l'idée de transmission aussi et de... toi, tu disais souvent qu'en tant que chanteuse, tu n'avais pas eu de modèle... lesbiennes dans la chanson, et c'est pareil pour les artistes qui interviennent, quoi. Souvent, elles n'ont pas eu forcément de modèle, et du coup, de leur faire connaître aussi via un autre médium, c'est intéressant.
Parce que c'est des chansons que les artistes que vous faites monter sur scène et qui donc interprètent tout ce répertoire que vous avez valorisé dans ce livre, Les dessous lesbiennes de la chanson, c'est un répertoire qu'elles ne connaissent pas, parce que vous racontez un peu dans le spectacle, notamment comment est-ce que vous avez redécouvert tout cet héritage, vous vous rencontrez au lycée, si je ne dis pas de bêtises, y a une espèce de petit jeu qui se noue entre vous, de dénicher un petit peu toutes ces pépites, mais ces artistes, qui est-ce qu'on a vu sur scène, Zoé, il y avait Laura Caen, donc Faune dont tu parlais,
PR2B,
Carmen Maria Vega, Barbara Carlotti, exactement, et Monsieur Confiture, voilà, je crois qu'on a tout. Comment est-ce qu'ils reçoivent ces artistes ces chansons? Est-ce que c'est une découverte aussi?
Souvent c'est des découvertes, justement c'est un peu leur coup de cœur de chansons. Je pense que oui, Faune, je suis pas sûre qu'elle connaissait la chanson de Barbara.
Non, elle l'a découverte, elle l'a et découverte, puis ouais. De la main gauche, non?
De la main gauche, Père de B, nous a dit qu'elle avait découverte et que elle connaissait pas non plus le film, alors qu'elle a une grosse culture cinématographique, ouais. Qu'elle a fait Filmiste, mais du coup qu'elle avait trop envie de voir Anne Trister. Donc en fait, c'est vrai que ça donne envie même aux artistes d'aller plus loin en fait.
Et pour la première édition, vous avez vraiment fait salle comble. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un espèce de, peut-être de nouveau désir pour ce genre de matrimoine lesbien en l'occurrence, spécifiquement lié à la chanson?
Oui.
Ouais, je pense qu'il y a déjà il y a un boom sur le cabaret. Donc c'est aussi le format en ce moment. Il y a énormément de cabarets qui se montent. Et du coup, notre spécificité, c'est un peu ce côté... de érudit sur le côté un peu recherche archive et comment on mêle ce côté archiviste et un cabaret, et c'est notre défi en fait. C'est peut-être pour ça que ça a plu, parce que à la fois c'est dans la mouvance cabaret et à la fois ça a une originalité
Et vous d'ailleurs, quel regard vous portez sur ce boom effectivement autour du cabaret qu'on a depuis quelques années? Nous d'ailleurs, on a même fait nous-mêmes notre propre soirée cabaret à l'été 2023. Oui. Oh merci. et voilà, quel regard un peu vous avez sur cette espèce de renouveau, un peu cette réactualisation du cabaret?
Bah moi j'adore en tous les cas. Je sais que j'ai la première fois c'était chez Michou que j'ai été, mais j'avais 13 ans.
Ah,
ma
oui,
mère
d'accord.
m'avait offert ça pour Noël. Et wow. Du coup, j'ai eu un...
Maman woke.
Ouais, voilà, c'est ça, maman woke. Et du coup, je me suis dit, ah, mais je vais passer toutes mes soirées là-bas. Donc, ouais, j'ai toujours beaucoup fréquenté les cabarets. Et je suis vraiment très, très contente qu'il y ait ce boom. Et surtout, qu'il y ait une meilleure visibilité drag king en ce moment. Parce que pendant très longtemps, c'était uniquement sur les queens. Et c'était très bien. Mais là, il y a un boom king. Et ça, on a aussi envie vraiment de le porter à travers le cabaret des Dessous Lesbiens.
Ouais. Et vous, Pauline Paris, même histoire avec le cabaret, même histoire d'amour avec le cabaret.
Oui, moi aussi, moi j'adore. J'adore tout, que la variété des numéros, que les artistes parfois aussi se retrouvent à faire des numéros ensemble. Il y a quelque chose de très chaleureux. Moi, en tant que chanteuse, j'ai fait beaucoup de scènes. Bon, j'ai eu un groupe parfois j'ai joué seule et tout ça. Mais on est souvent seul avec son projet. Mmh. Et là, je trouve ça assez fabuleux de partager la créativité de chacune, de chacun, et d'échanger quoi sur nos inspirations. C'est très riche. Et pour le public, en plus, on est sûr qu'il ne s'emmerde pas. Ça, c'est important.
Et surtout que ça change donc à chaque édition. La prochaine, c'est ce dimanche à 19h30 chez Olympe pour donc une spéciale Drag King en plus petit format. Édition à l'issue de laquelle, on le redira, mais donc il y a un DJ set, vous nous disiez hors antenne, c'est ça?
De Petite Mort, donc.
Petite Mort, très bien.
Techno-dynamique.
Bon, voilà.
Donc, pour enchaîner comme les gens seront en folie.
Et le 2 octobre, ce sera donc là en grand format, entre guillemets, avec à l'affiche Mélodie Loret qu'on a reçue cet été, Power Bottom, et j'ai oublié les autres noms.
Donc Adrienne Poli,
ouais.
Qui est une chanteuse qui a sorti son premier album en 2006 avec La fille aux prises uniques, et Je veux un mec, et parmi Je veux un mec, mais aussi parmi toutes ces chansons, une chanson qui s'appelle Vas-y viens, et où elle se met à la place d'un mec dans un bar qui drague une femme, et du coup qui nous avait beaucoup beaucoup parlé à l'époque avec Pauline, c'était notre chanson, on l'écoutait en boucle, et là on a réussi à l'avoir comme tête d'affiche de cette édition, et elle sort son troisième album. Du coup, on a
c'est
vraiment...
l'occasion.
C'est l'occasion, ouais.
C'est rigolo d'ailleurs, parce que donc ça, ce sera à voir le 2 octobre au 3 Baudet.
Et puis il y aura aussi Lise Cabaret.
Et Lise Cabaret. et il faut parler rapidement du fait que à l'origine, il y avait un livre qui est sorti aux éditions X en 2019. Il y a eu cette réédition qui est sortie aux éditions Point dans la fameuse collection féministe. Je crois que tu vas en reparler tout à l'heure, Zoé. C'est cette fameuse collection avec des petits livres à la couverture violette, là où on avait notamment le livre du collectif PD. Donc avec une réactualisation aussi, alors réactualisation à l'occasion de laquelle vous citez notre émission, donc merci beaucoup, mais avec quelques chansons en plus, il y a aussi...
des illustrations.
Et des illustrations de Julie Fedel, tu fais bien de le rappeler, merci beaucoup. Mais du coup, ça raconte aussi, je trouve, quelque chose de... En 5 ans, il y a eu d'autres chanteuses lesbiennes qui ont émergé, il y a eu d'autres chansons qui sont venues grossir ce répertoire. Et votre livre vient un peu chroniquer ça, quoi.
Bah exactement, ouais, parce que vraiment quand on a sorti le livre, c'était le moment des Victoires de la musique où se sont retrouvées toutes les chanteuses queer sur scène.
Pomme, Oshi, ouais, Suzanne.
Voilà, et c'était genre elles étaient toutes nominées. On était là, waouh. Mais
le livre est déjà parti à l'imprimerie.
Ouais. Mais par contre, on avait beaucoup de demandes d'interviews. Du coup, sur il y a une vague de suite aux Victoires de la musique d'articles sur les chanteuses aux ailes déployées, lesbiennes et tout. Et du coup, on a été interviewées et on s'est dit oui, faut qu'on actualise. Le livre, il y avait aussi, on manquait de chansons de rap, et du coup on s'est dit que c'était important. Et puis il y avait des chansons où on était vraiment passé à côté, comme Rupture au miroir, et où il y a toute une génération de lesbiennes, alors c'est la génération d'avant nous, mais qui nous disait c'était notre chanson, notre seul repère à l'époque.
Rupture au miroir, donc chanson de Jane Birkin, écrite par Serge Gainsbourg après leur rupture.
Tout à fait.
Extrêmement étrange cette chanson, je me souviens que vous nous en avez parlé quand vous étiez venu il y a 5 ans,
ouais.
De Jane Birkin qui raconte quand même une rupture lesbienne. Avec des paroles de Serge Gainsbourg.
Voilà, ouais, en fait, lui, il se met à la place d'une femme et il fait chanter à Jane Birkin, la femme délaissée, en gros. Donc c'est écouter, très voilà, écoutez, mais en tous les cas à l'époque c'est comme nous on n'avait pas beaucoup de chansons quoi en fait, on avait Tatou ou des trucs comme ça et du coup à l'époque en fait on s'accrochait à ce qu'il y avait et c'est vrai que je sais pas, peut-être c'est la génération des lesbiennes de 50 ans nous disait vraiment Rupture Miroir c'était le seul truc qu'on avait quoi.
Voilà, donc beaucoup de chansons, beaucoup de pépites à découvrir dans ce livre et donc dans ces cabarets 22 septembre, 2 octobre. Des lesbiennes comme s'il en pleuvait, ça pourrait être le slogan de cette émission ce soir, puisqu'à présent on accueille Lucie. Et Lucie, on m'a dit que tu aurais passé un excellent week-end. Raconte-nous, où étais-tu ?
Eh bien, Colin, ce samedi, j'étais au paradis des lesbiennes. J'étais au Five à Aubervilliers, soit 5 mini-terrains de foot dans un grand hangar sur lequel s'affrontaient 28 équipes venues de partout en France pour la Coupe Bernard Tapine. Un tournoi mythique en mixité choisie qui réunit chaque année depuis 2015 plus de 200 footballeuses et footballeurs, Gwyn, Trans et Bi. Créé par le club Baston et Courtoisie et co-organisé cette édition avec la belle Gwyn, on retrouvait parmi les équipes, attention, les Footch 3000, les Dégommeuses, les Daikiri, Claudia Swiffer, Gwyn Aman, les Footeureuses, les Drama Queer FC, les Cacahuètes Slut. Les matchs durent 10 minutes et se jouent à 5 contre 5. Tout se passe sur ces petits terrains d'herbe synthétique entourés de murs et de filets qui vont jusqu'au plafond pour pas que la balle s'échappe. Le ballon rebondit fort sur les parois comme au billard, ça rend les parties hyper intenses physiquement parce qu'il faut tout donner d'un coup et que toutes les passes sont décisives. Moi, je suis nulle en foot et j'aime pas vraiment le sport, mais là, j'étais plus passionnée que jamais. La pelouse bien en plastique, bien verte, la lumière crue, les joues rouges des joueuses essoufflées, les odeurs de transpi, les cris d'encouragement, les coachs qui hurlent, les coups de sifflet, et puis les petits shorts, les grandes chaussettes, les cuisses musclées, moi, je fonds. C'était un peu comme naviguer dans la foule d'un club, parce que pour regarder les matchs, il faut circuler entre les terrains et passer dans les tout petits couloirs, où on peut à peine se croiser à deux. Tu peux difficilement faire demi-tour et tu dois jouer des coudes pour avancer. Et là, tu croises tout le monde. Tes copains, tes crushs, tes ex et les stars locales. Il y avait Virginie Despentes, Mascar, Billy Bellegarde, Mélodie Loret, Marie Patouillet, Garance Marillier, Tani et Céline Sciamma. Rien que ça. Dans la foule de spectatrices, il y a aussi des couples de lesbiennes avec enfants, des butch cinquantenaires, des papas de Gwyn, des supportrices amoureuses, des grandes sœurs trop fières. Moi, je suis allée à cette coupe pour soutenir la commu dans la commu, soit ma petite sœur marseillaise qui était montée à Paris exprès avec son club, le Must. Et je ne m'attendais pas à être autant émue. Je l'ai découverte entourée de son équipe. J'étais très impressionnée par ses exploits sportifs, mais surtout par l'énergie collective. Le slogan de la coupe, c'est « l'amateurisme à son plus haut niveau ». Et je trouve qu'il raconte bien ce que c'est que ce tournoi, une vaste fête de nous, par nous et pour nous. C'est exigeant, les matchs sont durs, certaines sont très fortes, d'autres moins. Mais quel que soit le niveau, tout le monde s'engage avec beaucoup de sérieux. Et cette exigence pour nous, ça m'a bouleversée. Parce que dans un contexte où tout est construit sans nous, voire contre nous, depuis l'éducation en passant par la justice et jusqu'à la famille, j'ai eu le sentiment, comme rarement, d'être dans un espace à nous, autogéré, où on rigole bien mais surtout où on construit ensemble et où on lutte ensemble. À la fin de la journée, l'équipe de ma petite sœur est arrivée 15e et est repartie avec le prix du fair play. Elles ont décidé de reverser l'argent au centre LGBT de Marseille qui a ouvert il y a tout juste un an.
Et voilà, et qui fait un super travail pour nos communautés, notamment avec des permanences de soins et d'aide sociale pour les personnes queer, demandeuses d'asile ou encore les personnes trans. On peut les suivre sur Instagram pour voir un peu toutes les actions qui ont été menées cette dernière année. Merci beaucoup Lucie pour cette jolie chronique. Léa Logiteur, Pauline Paris, on vous voit à la Coupe Bernard Tapine l'année prochaine ou vous y étiez dès cette année?
Non, on n'y était pas, mais là, ça donne vraiment envie. Ouais.
C'est presque un cabaret. Hein,
et en plus, j'habite à Aubervilliers, donc là, j'ai tout raté.
Il n'y a pas d'excuse. Bon, allez, on revient au dessous lesbien de la chanson avec toi, Zoé.
Oui, tout à fait. J'avais un peu envie de parler d'humour et d'ambiance de salle, parce que donc, pendant ce cabaret, vous présentez les artistes qui viennent chacune à leur tour sur scène. Donc même s'il y a un ordre de passage défini, ce qui est moins défini, c'est l'ambiance, les rires éventuels, la manière dont réagit la salle. Et je voulais savoir comment vous, en tant que personne qui hostait la soirée, et aussi en tant qu'artiste, vous sentez cette ambiance et comment vous vous ajustez en fonction de ça.
Bah là, ce qui a été un peu une surprise pour ce premier cabaret aux Trois Baudets, c'est qu'on... au départ, on avait prévu d'avoir des micro-cravates, donc d'avoir les mains libres, d'avoir vraiment toute la scène pour nous entre chaque artiste. Et là-dessus, en arrivant aux balances, eh ben, on nous a dit « non, vous aurez un micro à la main ». Donc tout d'un coup, ça changeait un peu des choses qu'on avait prévues, parce qu'on n'avait qu'une main de libre et plus deux. Et qu'ensuite, il y aurait aussi des changements de plateau, normal, entre chaque artiste. Et donc à chaque fois, il y avait deux techniciens qui arrivaient sur scène et on devait un peu gambader d'un endroit à l'autre pour essayer de pas être dans leurs pattes. Et en même temps, on avait demandé une douche, c'est un éclairage, donc une douche un peu serrée sur nous deux. Donc dès qu'on sortait de la douche, eh ben, on était dans le noir. Donc voilà, il faut jouer avec ça. Donc il n'y aura pas forcément la même erreur, on a réfléchi à autre chose pour la deuxième édition.
La résidence d'écriture a fonctionné pour ça aussi cette occasion.
Et après, les rires, puisque en fait, ça ne va jamais être le même spectacle. Donc il y aura toujours, on va toujours un peu changer les intros selon les choix des artistes et leur choix de chansons et tout ça, il y aura toujours quelque chose de spontané, je pense, et de rire. Oui, parce que moi, j'ai par exemple, à la dernière édition, il y a eu un truc où je disais dommage.
Après annoncer la mort d'une chanteuse jeune, oui. Et du coup, Pony a dit dommage, en mode un peu gêné, et en fait, ça a vraiment, vraiment fait rire la salle, et après, ça, c'est devenu un running gag à chaque fois qu'on disait que les chanteuses étaient mortes jeunes, parce qu'en fait, il y en avait pas mal. Hein.
Mais c'était pas voulu. Je pensais vraiment ce dommage au départ. Mais bon, c'est vrai que ça se transforme et là, on fait avec l'ambiance. Et l'important, c'est d'être un peu comme dans un salon, quoi.
En fait, ce qu'on remarque, c'est que les scènes qu'on avait écrites un peu d'humour avec des objets ou quoi, ça a moins fait rigoler que notre complicité qu'on a parce qu'on se connaît bien. Et du coup, un peu quand on improvise, etc., le public va plus rigoler. Donc c'est comme ça qu'on sent un petit peu, je pense, l'ambiance de la salle. Et là, ça réagissait aussi très bien à des petites questions, des quiz qu'on posait. Et du coup, ça, je pense que c'est un truc à garder, de faire bien participer le public dans des cabarets.
Il y a un bon nombre de chansons que vous analysez, surtout dans le livre, mais du coup, qui sont aussi chantées sur scène, sont remplies de petites touches d'ironie, d'humour. Et tout à l'heure, Pauline, tu as parlé des pingouins de Juliette Gréco, et on vous propose d'écouter cette chanson. On est en 1970.
Et beaucoup moins de pingouines, alors que les pingouines, il n'y en a plus que de pingouins. Sans doute que les pingouins sont plus gais que les pingouines, alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine. Les petites pingouines ne se tiennent à rien, non rien. Les petits pingouins boivent du bon vin dans de petites bouges. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. Parfois quand un pingouin...
Donc derrière une mélodie assez rigolote, une ambiance belle musette, vous dites que c'est un véritable plaidoyer contre l'homophobie. Et cette chanson aborde aussi un sujet peu commun, peut-être celui d'une rivalité entre les gays et les lesbiennes. Alors une rivalité plutôt davantage culturelle. Mais vous écrivez que d'un côté on a les gays exubérants et festifs qui se mettent au fond de teint ou bien quelques huiles. Et de l'autre, les lesbiennes secrètes et tristes qui préfèrent le gros rouge. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette ironie ? Est-ce que vous, quand vous entendez cette chanson, vous avez envie de l'interpréter de manière un peu festive ?
Je pense déjà, ce qui est intéressant de dire, c'est que ça a été écrit par un homme, donc un gay, Frédéric Botton, et que donc, c'est un peu son regard sur les goïnes de l'époque, mais avec beaucoup d'ironie. Et puis, du coup, Juliette Gréco accepte de la chanter... Elle qui était bi, donc en fait ça match. Mais oui, on a envie de la chanter quand même de manière festive. Et
faut la prendre avec un second degré.
Oui,
quoi,
voilà, c'est vraiment. Ça, ouais.
Elle se montre à une émission télé en queue de pie pour faire le pingouin, et ça finit un peu en danse du pingouin à la fin de la chanson. Voilà.
Et peut-être juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre coup de cœur de toutes ces chansons que vous avez balayées dans le livre ?
Un coup de cœur en particulier ?
Ouais.
Vous n'aviez pas préparé cette question.
Non, vous les aimez toutes.
Non, mais c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même... en faisant des recherches sur chaque chanson, on s'y attache énormément. quand on passe des journées entières à travailler sur les paroles d'une chanson, ça devient... chaque chanson a vraiment son importance. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir les chansons de François Sagan. Voilà, le soleil, que j'ai beaucoup aimé. Et je ne savais pas qu'elle écrivait des chansons, donc... il y a un vinyle très touchant où à la fois elle a demandé à Juliette Gréco et Annabelle Buffet de, enfin qui s'appelait que Annabelle à l'époque, de reprendre ses chansons, et en même temps de l'autre côté du vinyle on a sa voix à elle qui ne les chante pas mais qui parle au-dessus de la mélodie, et c'est très très intimiste. Ça, j'ai écouté en boucle ces chansons.
Et moi, peut-être dans la version augmentée, bah, Coucou de Meryl, que j'avais vraiment juste entendu en soirée. Donc en fait, on prête pas vraiment attention aux paroles, mais en fait, quand on les écoute, on se dit elles sont vraiment trop stylées. Genre, elles sont trop bien écrites, elles sont trop stylées. Cette femme tellement indépendante, tellement badass.
Vous prêchez des convaincus, Léa Lodit. Eh bien, en tout cas, on peut lire donc Les Dessous Lesbiens de la Chanson. C'est ressorti cette année dans la collection des éditions Point. Et on va le 22 septembre chez Olympe pour le cabaret des Dessous Lesbiens spécial King, et le 2 octobre au 3 Baudets. Merci beaucoup. Vous me parliez de Juliette Gréco, cette immense icône bi. Deux autres icônes bi nous rejoignent dans ce studio juste après ça.
Tellement longtemps dans le placard, j'en ai fait une chambre noire pour développer mon art, montrer tout ce qui était en moi. Gros, j'ai plein d'idées qui étaient enfermées dans la cage. Poser libéré, c'est terminé la prise d'otage. Mot d'ordre comme je dis, jamais monotone, je fais tourner le scudi. De l'hiver à l'automne, je m'exprime avec des mots forts, acides, gravés à l'eau forte, personne reste assis. Je fais kiffer même les allophones. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane. Mon seum et ma déter me servent à détruire des prods. Je suis le titan colossal dans le district de Trost. Je sème la détresse, j'ai besoin d'un anti-stress. Je veux briller, m'imposer comme l'armée de Xerxès. J'écoute les ondes radio, ces choses qui nous inondent. Les autres MC pondent un œuf pourri tous les 6 mois. Et entre chaque j'ai pro, lâche une réédition immonde. Ils rageront de voir une meuf comme moi les mettre minables. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane. Dans le rap, ma place n'existe pas, je vais me la faire à la tronçonneuse. M'en fous de ton avis là-dessus, on t'a pas sonné, ça t'a passionné. T'as des questions, comment je tue le son? Tu veux la réponse, j'ai ça dans le sang. J'écoute souffrance, j'écoute tuerie, j'inflige les deux. Ça m'afflige chaque jour d'entendre des discours haineux. Pour les télés de France, je dirais que j'ai du désamour. Je suis rappeuse et trans, je sors d'un cauchemar de Zemmour. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane. J'arrive fort, je fais du bruit comme un Beretta. Mais j'avance doucement, je fais des petits pas. Je veux que ça tourne en boucle dans ta cabessa. C'est pas un disque d'or, mais un disque de titane.
Eau forte, c'est le dernier titre de La Roserie, jeune artiste queer à suivre. Merci à Margot Page à la réalisation. Vous écoutez Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris. Et il est 19h45, nous parlons à présent de la journée de visibilité bi avec nos deux invités que je vous présente. D'abord, bonsoir Vivi.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association
Pas
Bicose.
Du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ah ben non, je vous ai même pas demandé.
Je suis chargé du secrétariat et du porte-parole. Voilà. Voilà. Et pas toute seule en plus, c'est
ça
bien.
Ça commence bien. Vous êtes donc chargé du secrétariat de l'association Bicose et donc porte-parole. Vous nous présentez Bicose en quelques mots.
Bicose est une association bi, pan et plus. depuis 2017, mais en fait, elle existe depuis 1997. Mmh. Donc, pendant tout un temps, la cause bisexuelle, et puis on a pris le virage. On a pris le temps de prendre le virage, mais il était nécessaire.
Et c'était quoi le contexte quand, je ne sais pas si vous étiez à la création en 97, mais j'imagine que les associations bi en 97, elles n'étaient pas si nombreuses.
Non, elles étaient même pas du tout.
Elles n'existaient
pas du tout. Non, je n'étais pas à la création. Par contre, l'une des cofondatrices, Catherine Deschamps, en parle dans son livre Le miroir bisexuel. Et puis, j'ai pu retrouver les archives de premier Bicose. Et en fait, c'est lié à un conflit qu'il y avait eu dans une activité du centre gay et lesbien de l'époque qui s'appelle le Vendredi des femmes, qui s'appelle toujours le Vendredi des femmes, et où des femmes bi ont été éjectées et ostracisées par des femmes lesbiennes parce qu'elles pactisaient avec l'ennemi quelque part. Et donc voilà, le centre a fait en sorte de créer un groupe bi qui s'est ensuite transformé en association.
La spécialité une des spécialités en tout cas de cette association Bicose, ce sont les Bicoseries.
C'est vrai.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est des soirées à thème qui ont lieu les 2e et 4e lundi du mois, sauf le prochain lundi, puisque c'est le 23 septembre. On ne va pas faire une bicoserie le jour de la journée internationale.
On peut vous rejoindre ?
Tout à fait nous rejoindre. Ouais. De toute façon, toutes les activités qu'on fait sur le mois sont ouvertes à tout le monde. Donc, on nous joint pour une soirée ou pour toute la vie, comme on veut.
On peut commencer par une soirée avant de s'engager pour toute la vie.
Et puis, on a un groupe de parole, on a des moments de convivialité, on a des moments de réflexion. Et puis, on accueille toutes sortes de bénévolats, y compris sur la journée du 22.
À vos côtés, on accueille également Lucille, bonsoir.
Bonsoir.
Du collectif Bipan Paris, pareil, une petite présentation du collectif en quelques mots.
Oui, donc Bipan Paris est un collectif qu'on a créé en 2023. La volonté était de proposer des espaces de parole et de politisation pour les personnes bipan et en questionnement. Ouais. En Ile-de-France. On est un collectif féministe, queer, intersectionnel, sex worker et trans inclusif, antiraciste, antivalidiste et allié décolonial. Mmh. Et on organise actuellement des cercles de parole une fois par mois, mais on est surtout assez actif sur Instagram.
Ouais, j'ai vu ça. Effectivement, on va pouvoir en parler parce que j'ai vu notamment que sur Instagram, vous aviez développé un dictionnaire de la bisexualité. Vous nous en dites quelques mots ?
Alors en fait, c'est assez reconnu que les personnes bipans sont super douées en jeu de mots. Mmh. Donc on a décidé de faire un dictionnaire.
Ah oui, voilà, je me disais bien que je ratais quelque chose.
Et on reprend des jeux de mots qui sont proposés par des membres du collectif et on fait des petites définitions.
Notamment les bicônes.
Oui, les bicônes, parce qu'on trouve que c'est important de mettre en avant les personnalités bipans qui ont soit été sont longtemps dans le placard, soit mis dans une autre catégorie, et vraiment pour faire connaître les personnalités bipans.
Donc le 23 septembre, vous le disiez, journée internationale de visibilité bi. On va parler de l'importance de cette journée, mais d'abord, il y a donc des événements qui se profilent le 22 septembre, la veille, c'est ce dimanche. Alors, il y en a qui iront au cabaret des dessous lesbiens spécial King, mais il y en a qui iront à ces événements que vous nous organisez. Vous nous en dites quelques mots, qu'est-ce qui va se passer le 22 septembre, Vivi ?
La première chose, en termes d'horaire, c'est la marche qu'on fait chaque année, le dimanche le plus proche du 23 septembre. Et c'est une marche qui, sous réserve de l'accord de la préfecture, qui est de plus en plus tardif, un jour ils le donneront le lendemain, d'accord, qui se déroulera sur Paris de la place du colonel Fabien jusqu'à la place Edmond Michelet, qui est au sud-ouest du centre Pompidou, en passant donc par rue du Faubourg-Saint-Martin, etc. Et donc, à un moment, on s'arrêtera devant le centre LGBTQI+, de Paris et d'Île-de-France, au moment où il y a le pôle asile, et on tient absolument à ce moment-là où on matérialise la solidarité avec les demandeurs et demandeuses d'asile LGBT.
Donc ça, c'est l'après-midi. Et ensuite, la journée se poursuit.
Ensuite, avec le collectif Les Bisextiles, on organise une soirée avec au lieu pas si loin à Pantin. Donc c'est une soirée où il y aura du stand-up.
Pas si loin, c'est le nom du lieu.
C'est le pas si loin à Pantin. Pas si loin, c'est le nom du lieu à Pantin.
C'est du stand-up.
Voilà, on organise une soirée avec du stand-up, du drag, ouais, de la musique live et on finit avec un DJ set. Avec
sacré
que
programme.
Des artistes bipans.
Ouais, beaucoup d'ailleurs. J'ai vu 14 artistes bipans.
On est plutôt sur une dizaine.
Une dizaine. Bon, c'est vachement bien déjà.
Merci.
Vous restez avec nous, d'autant que figurez-vous que c'est le moment d'accueillir notre chroniqueuse chat.
Le lobby.
Congratulations, Megan.
Sur Radio Campus Paris.
Ah bah non, en fait c'est Père Castagne qui assure la chronique cette semaine.
Ah bah cache ta joie, Colin, tu vas voir. Bon allez, tous ton cœur. Père Castagne.
Raconte-nous une histoire, Père Castagne.
Wouh, mais quel enthousiasme. Mais à deux doigts de mettre une côte de maille et de foutre le feu à un château de l'hétérosexualité compulsive. Ça fait beaucoup de lettres et pas assez de cardio. Salut les pitchounes. Oh là, des petits yeux. On s'est pas remis de la fête de l'image, j'ai l'impression.
Enfin, de ton côté, tu n'as pas l'air de respirer la joie non plus, je crois, Père Castagne.
Mais t'es charmant aujourd'hui, dis donc. Mais oui, mais tel que tu vois, je retiens mes larmes, Colin.
Voilà.
J'essaie de rester fort et digne, mais je me suis fait larguer.
Oh non.
Par mon piercing.
Ah.
Je sais, c'est terrible. On avait pourtant fait une thérapie de couple avec ma perceuse, mais non, ça n'a pas suffi. J'ai perdu toute ma personnalité, je suis deg. D'autant plus que pendant toute notre relation, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Sérieux, j'ai dépensé tellement de thunes en compresses stériles, en bétadine, je comprends pas. Colin, t'en penses quoi? Est-ce que je lui envoie un question?
Si tu veux mon avis, je pense...
Non, mais t'as raison, ouais, là, je lâche l'affaire. T'as un perdu voilà. 10 de percé en avance. Aujourd'hui, je voulais parler d'un autre moyen de militer, un outil redoutable, mystérieux, aussi efficace que tranchant, à faire frémir les plus endurcis. Quel suspense, n'est-ce pas ? On l'a vu la semaine dernière, pour lutter contre le système, il y a les manifs, mais pas que. Il y a un autre moyen de militer et c'est le boycott et son sidekick, le call-out. Alors déjà, le boycott, c'est quoi ? C'est le fait de refuser de participer à quelque chose. Exemple contemporain, la campagne BDS qui appelle à boycotter plusieurs enseignes pour impacter les financements qui nourrissent le génocide palestinien. Ou encore le refus d'acheter le nouvel iPhone 16 parce que bon, c'est quand même tendu ce qui se passe au Congo, quoi. Et dans un monde capitaliste et néolibéral, choisir où on met son argent, bah, c'est un super levier d'action. Mais parfois, toucher au portefeuille, ça suffit pas. On l'a vu avec MeToo. Ouais, je sais, old school, mais bon, toujours d'actualité finalement. Hein.
Plus que jamais.
La technique du call-out est un outil intéressant pour lever le silence sur des sujets qui, on le sait, sont systématiquement poussés au fin fond du placard. Bah, il faudrait pas trop bousculer les bourgeois avec nos histoires, tu comprends. Et tout ça, c'est super, mais attention. Un outil aussi puissant, ça comporte aussi quelques risques, surtout dans un espace aussi fragile que nos communs. Alors pose ce chalumeau et viens, on discute. On parle beaucoup d'anticarcéralisme, mais le call-out appliqué dans nos communs où les réactions ou les relations de pouvoir sont quand même beaucoup moins importantes que dans les grandes industries culturelles, et ben ça peut vite tourner la grosse vague de harcèlement niveau collège. Au début, on voulait cramer le système et on se retrouve à brûler les sourcils du voisin en jouant avec le briquet. Franchement, c'est un peu ballot. Et puis, on a un peu pris l'habitude de tout critiquer sans tout prendre le temps d'être bienveillant et bienveillante. C'est un peu le choc entre le do-it-yourself lesbien schlagopunk et l'injonction à la perfection militante. Bah, y a un juste milieu à trouver, quoi. On devrait arriver à le faire sans passer par la case prison au Monopoly Pocket queer. Hein. L'anticarcéralisme, c'est aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire prendre le temps de discuter, même si c'est inconfortable. Il y a d'ailleurs quelques alternatives. Bon, y a déjà le call-in, quoi, par exemple. Signifier que tel ou tel comportement, c'est pas OK et recevoir des excuses, bah, des fois, ça marche, en fait. Hein. Bien sûr que parfois, la relation de pouvoir est telle qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais franchement, dans d'autres cas, c'est juste plus confortable de call-out sur les réseaux et basta. Sauf que je sais pas vous, mais moi, c'est pas pour ce genre de société que je me traîne en manif tous les week-ends. Après, ça n'engage que moi, finalement. N'empêche que pendant qu'on se tape dessus, le système y reste bien pépouze et nous, on continue à se faire écraser toujours plus. Évidemment qu'on ne doit pas laisser passer les trucs problématiques dans la commu. Mais est-ce qu'on est aussi virulent et virulente quand c'est les 6-7 qui font les mêmes choses ? Y a comme un double standard et on sait à qui il profite. Alors venez, on reprend le chalumeau et on va le cramer ensemble, ce château 6-7 normatif.
Merci beaucoup, chat. Merci à Père Castagne pour ses conseils avisés chaque semaine. Lucille et Vivi, on est encore avec vous pour quelques minutes pour parler donc de cette journée de la visibilité bi qui aura lieu le 23 septembre prochain. Pourquoi en 2024 c'est encore important cette journée de visibilité ? Une question toute bête, mais...
Bah, moi qui ai traîné au nom de mon association dans des salons ministériels, ouais, qui ai passé des journées, des soirées à remplir des Excel pour dire voilà, il faut mettre ça en avant, etc. Pour finalement un plan interministériel où il n'y a rien sur la question de la biphobie et de la panphobie, je trouve ça, c'est en soi significatif. Maintenant, de l'autre. Et puis, le rapport d'enquête biphobie-panphobie qu'on a fait avec SOS Homophobie, ouais, le MAG, ACT UP et puis FIER,
il y a tout de même 130 femmes, en grande majorité des femmes, alors que la question n'était pas posée, qui disent il y en a ras-le-bol du schéma, les plans A3. Voilà. Et ceci pour dire que la biphobie, la panphobie, ça existe dans les salons ministériels, ça existe dans les réseaux sociaux, et y compris, hélas, il y a pas mal de témoignages là-dessus par rapport aux
milieux à nous
et lesbiennes.
Effectivement. Voilà. Et comment est-ce qu'on l'explique et comment est-ce qu'on lutte contre cette biphobie dans nos milieux queer qui, on pourrait le penser, devrait être davantage éduqué sur la question.
En fait, le problème qu'il y a, c'est que au moment des mouvements pour les droits gays et lesbiens, il y a eu une séparation où les personnes bi ont été mises de côté parce qu'ils estimaient que les personnes bi pouvaient retourner au placard. Et c'est à partir de là que, dans les milieux militants, les personnes bi ont été exclues. Et aujourd'hui, quand on reparle de biphobie et de panphobie, on nous dit non, mais ça n'existe pas. Vous avez le choix. Enfin, voilà, on se retrouve avec des remarques que sortent les personnes hétéros, personnes gays et lesbiennes. Et c'est aussi compliqué d'expliquer à la communauté queer en quoi la biphobie et la panphobie est problématique que d'expliquer à la communauté hétéro en quoi l'homophobie est problématique aujourd'hui. Bien en sûr. Fait.
Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous disiez, Vivi, sur ces études que vous avez produites donc avec différents collectifs, c'est que justement, je me demande si la biphobie et même la bisexualité, en fait, n'est pas dans un espèce d'angle mort de la recherche. On a des statistiques, des documents qui documentent, je me répète, les réalités de l'homophobie, de la lesbophobie. Sur la biphobie, j'ai l'impression que c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, y compris quand on va, mais même sans parler de biphobie, simplement de réalité, de vie bi ou pan, quand on va dans une librairie, il n'y a pas de rayon bi.
Éventuellement un rayon lesbien et un rayon gay dans certaines librairies, mais il n'y a pas de rayon bi. Ouais.
On va effectivement à la bibliothèque du centre LGBTQI+ de Paris d'Île-de-France, on fait une recherche, il y a de la documentation, mais ce n'est pas gigantesque. Donc il y a vraiment des grands manques. On a fait une première enquête avec Léa d'ailleurs, à l'époque, la première enquête nationale sur la bisexualité. Il y a une deuxième enquête là, sur la biphobie et la panphobie. Il y a tout de même SOS Homophobie qui fait son chapitre depuis plus de 10 ans sur la question de la biphobie.
Dans son rapport annuel.
Dans le rapport annuel. Et une enquête virage de l'INED où il y a moins de 300 répondants et répondantes bi. Alors qu'il y a eu 6200 et 3600 réponses dans les deux. Donc... voilà.
Mais justement, j'ai l'impression que peut-être une des parties de la réponse serait la question de la culture. Vous dites, on trouve pas de bouquins, etc. Notre réalisatrice Margot Page, par exemple, dit, moi, j'écoute de la musique de bisexuels, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à créer aussi de ce côté-là, des références communes, très très rapidement?
Ah ben, Yann Alexander qui chantera dimanche soir une chanson, Le Mulâtre. Il est lui-même mulâtre, mais pas assez et trop par rapport justement à
la bisexualité. Il porte le mulet. Voilà. Oui, c'est ça. Effectivement, donc il y a encore pas mal de champs à explorer de ce côté-là. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Lucille et Vivi. Je rappelle le nom de vos collectifs pour Vivi, l'association Bicause, et pour vous, Lucille, le collectif Bipan Paris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à Pauline Paris et Léa Logiter. Je rappelle les dates des prochains cabarets d'Ido sous lesbien une dernière fois. 22 septembre à 19h30 chez Olympe pour la spéciale King et le 2 octobre au 3 Baudet. Merci à toute l'équipe du lobby au micro. Il y avait Maëlle, Chat, Zoé et Lucie, Margot Page à la réalisation et Eléa à la préparation. C'était la dernière édition de ce lobby d'été, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec notre podcast d'actualité qui fera son grand retour. On sera avec les équipes de la Flèche d'Or qui a préparé tout un tas d'événements pour sa réouverture. Et puis, comme toujours, on sera à l'antenne de Radio Campus Paris en direct un mardi par mois. Prochain rendez-vous le 15 octobre. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram @lelobbyrcp. Bonne soirée, à très bientôt.
Campus Paris.